Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François a canonisé les premiers saints de son pontificat, une colombienne, une mexicaine et 800 italiens martyrisés pour avoir refusé d'embrasser l'islam. Devant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, il a lancé un appel très ferme pour la défense juridique de l'embryon et la sacralité de la vie humaine. C'est la une de ce magazine. Dans cette émission, vous entendrez également le cardinal Robert Sarra, président du conseil pontifical Coronum, et Gérard Tétard, qui coordonne en France le rassemblement des responsables de mouvements et communautés nouvelles. Encore une journée de joie et de fête ce dimanche à Rome autour du pape François qui continue de drainer les foules et de toucher les cœurs par sa simplicité chaleureuse et qui parvient à se faire entendre en parlant de Dieu, des pauvres, de la fraternité. Ému, chaleureux, venu en famille ou en groupe, enthousiaste et fervent, des dizaines de milliers de fidèles l'ont ovationné sur la place Saint-Pierre. Parmi eux, des centaines de Colombiens et de Mexicains, certains arborant des sombreros, ainsi que des milliers de participants à une marche en faveur de la vie des conception. Cette fête était celle de la sainteté car ce dimanche, le pape François a canonisé les premiers saints de son pontificat. 800 martyrs chrétiens, les martyrs de Trente, décapités par les soldats turcs au XVe siècle pour avoir refusé de se convertir à l'islam. Ainsi que deux religieuses latino-américaines fondatrices de congrégations féminines, toutes deux mortes au XXe siècle. Une colombienne qui s'est battue pour évangéliser les peuples autochtones et défendre leurs droits. Et une mexicaine qui a consacré sa vie aux malades et aux pauvres et qui a sauvé la vie d'un archevêque pendant les féroces persécutions antichrétiennes au Mexique. Des exemples qui ont permis au pape François de revenir sur quelques points fondamentaux de son enseignement. Olivier Tosserie.
Citant l'histoire dramatique des martyrs d'Otrante, le Saint-Père a attiré une nouvelle fois l'attention sur la situation actuelle des nombreux chrétiens qui, dans plusieurs régions du monde, sont victimes de violences. Il a demandé à Dieu de leur accorder le courage de rester fidèles et de répondre au mal par le bien. Le pape François appelle les chrétiens d'aujourd'hui à conserver le trésor de leur foi et à renouveler leur fidélité à Dieu en dépit des obstacles et des incompréhensions, et parfois jusqu'au martyr. La leçon à tirer de l'exemple de la première sainte colombienne, Madre Laura, est de ne pas vivre la foi dans la solitude, mais de porter la joie et la beauté de l'évangile en tout lieu, de vaincre l'indifférence et l'individualisme qui rongent les communautés chrétiennes et de se montrer accueillant, sans préjugés ni discrimination et, comme Madre Laura, sans s'opposer aux cultures locales.
Santa Guadalupe García Zavala lo sabía bien.
Enfin, la nouvelle sainte mexicaine Madre Lupita a donné l'occasion au souverain pontife de mettre en garde une nouvelle fois contre les conséquences néfastes du confort, du bien-être, de l'embourgeoisement des cœurs qui paralysent de nombreux chrétiens. Les pauvres, les laissés pour compte, les malades, les marginaux sont la chair du Christ, a-t-il lancé. Il ne faut pas avoir honte, peur ou dégoût de toucher la chair du Christ. Le pape François avertit que sans le témoignage de la charité, même le martyr et la mission perdent leur saveur chrétienne. En clair, les chrétiens ne doivent pas se replier sur eux-mêmes, sur leurs propres problèmes, idées et intérêts, mais aller à la rencontre de ceux qui ont besoin d'attention, d'aide et de compréhension. Ils doivent montrer leur foi avec respect, mais aussi avec courage.
En saluant les délégations officielles représentant les pays d'origine des nouveaux saints, dont le président colombien Calderón, le souverain pontife a encouragé les Italiens à envisager l'avenir avec espoir, en demeurant proche de Dieu qui n'abandonne jamais, même dans les moments les plus difficiles. Il a appelé les Colombiens à poursuivre l'œuvre de réconciliation et de développement, et les Mexicains à lutter contre la violence et l'insécurité. Puis il a fait longuement le tour de la place pendant 50 minutes, descendant plusieurs fois de sa jeep pour serrer des mains, embrasser les enfants et les malades, suscitant la liesse générale. Ce dimanche aura également été marqué par la présence des participants à la Marche pour la vie qui a rassemblé quelques 30 000 personnes à Rome. Un thème important a commenté le Saint-Père avec gravité, évoquant la pétition lancée dans de nombreuses paroisses italiennes pour soutenir l'initiative européenne Un de nous. Il s'agit de demander à l'Union européenne la protection juridique de l'embryon afin d'assurer la défense de tout être humain dès le premier instant de son existence. Venus de plusieurs endroits d'Europe, les manifestants avaient défilé du Colisée baptisé jusqu'au château Saint-Ange. Le pape François a par ailleurs signalé la tenue les 15 et 16 juin prochains au Vatican de la journée de l'Evangelium Vitae, l'évangile de la vie. Un moment important, a-t-il dit, pour tous ceux qui ont à cœur le caractère sacré de la vie humaine, thème central de l'année de la foi. J'ajoute que l'initiative citoyenne européenne Un de nous espère réunir 1 million de signatures. En vertu d'un nouveau règlement européen en vigueur depuis quelques mois, il faut et il suffit qu'un million d'électeurs de 7 pays différents signent cette initiative pour que la Commission européenne soit tenue de reconsidérer la question du financement européen de la recherche sur l'embryon humain. Au Grand Rassemblement National Diaconiat 2013, qui s'est tenu à Lourdes du 9 au 11 mai, le Saint-Siège était représenté par le cardinal Robert Sarra, président du Conseil Pontifical Coronum. C'est lui qui a présidé jeudi la messe de l'Ascension. Dans son homélie, le président de Coronum a invité les fidèles à porter la compassion et l'amour de Dieu dans un monde souvent désemparé, angoissé et de plus en plus cruel. Le cardinal Sarra a fermement dénoncé la destruction du mariage et de la famille, les déviations anthropologiques et morales. Aussi, a-t-il dit, l'Église devra-t-elle être subversive et critique envers toutes les réalisations bornées de ce monde et mener le combat à la manière de Jésus et avec les armes de Dieu. Jean-Baptiste Cocagne a contacté le cardinal Sarra à Lourdes avant la fin du rassemblement.
Toute communauté chrétienne, tout chrétien n'est qu'un canal pour transmettre l'amour de Dieu aux plus pauvres. Mais il n'y a pas qu'une seule pauvreté, il y a plusieurs figures de pauvreté. Il y a bien sûr les pauvretés matérielles, mais également il y a des pauvretés beaucoup plus graves qui menacent notre humanité, notamment les personnes qui n'éprouvent pas la nécessité de Dieu, qui sont sans Dieu, qui se croient qu'ils peuvent faire du bien sans avoir besoin de l'aide de Dieu. Et donc, j'essaie de faire comprendre que la charité, le service aux autres, n'est qu'une délégation que nous accomplissons de la part de Dieu. Et vous savez que, notamment en France, il y a toute une campagne pour pratiquement changer la nature du mariage, la nature de la famille, et l'Église doit contester cette manière nouvelle de voir la famille et le mariage. À ce moment-là, il doit être subversif par les moyens, par exemple, qu'a utilisé l'Église de France, par des manifestations pacifiques, en affirmant d'une manière claire la pensée de Dieu sur la famille et sur le mariage.
La charité, la fraternité, ce sont des notions clés pour le nouveau pape François. Alors ce rassemblement diaconia a été décidé par son prédécesseur Benoît XVI, mais est-ce que le fait qu'il intervienne quelques semaines après l'élection du pape François, eh bien ça a une résonance encore plus particulière?
Si, c'est évident, mais il faut, je crois, comme j'ai expliqué dans un des forums, il ne faut pas comprendre le pape François de manière superficielle. Ce n'est pas seulement une lutte contre la pauvreté et contre les misères. Le pape parle également des périphéries où règne le mystère du péché, l'injustice, l'indifférence religieuse. Et donc, je pense qu'il faut qu'on comprenne que la vraie pauvreté contre laquelle nous devons lutter, c'est peut-être ce que Saint François indique par sa vie, c'est-à-dire peut-être nous sommes tous appelés à travailler pour ressembler au Christ jusqu'à porter ses stigmates. C'est en ce moment-là seulement, en ressemblant au Christ, que nous serons porteurs de charité, porteurs de fraternité, porteurs de paix. Deuxièmement, le pape François nous indique Saint François comme étant celui qui a été invité à redresser l'Église, à soutenir l'Église qui était en train de tomber. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a une crise intérieure à l'intérieur de l'Église. Également une crise au niveau de la société. Et nous devons travailler à ce que nous redressions cette situation aujourd'hui, mais avec l'aide de Dieu. Donc c'est vrai que François a incité l'Église de France, l'Église universelle, à plus de simplicité, à plus de pauvreté, à plus de dépouillement, mais en même temps en nous invitant à imiter le Christ qui s'est dépouillé jusqu'à être serviteur des hommes.
C'était le cardinal Robert Sarra, président du Conseil pontifical Coronum. Une nouvelle page de l'histoire religieuse a été écrite samedi à Lyon. La mise en place des structures de l'Église protestante unie de France, dont font partie désormais 250 000 croyants. Au terme de 5 ans de processus d'union, l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne de France ont convergé vers une seule Église protestante unie, remodelant ainsi une des principales composantes du protestantisme français. La nouvelle Église a tenu son premier synode national annuel du 8 au 12 mai à Lyon. Au cours de ce premier synode, un nouveau conseil national a désigné samedi son président, Laurent Schlumberger, 55 ans, pasteur de l'Église réformée. Par ailleurs, les 200 délégués nationaux ont entamé une réflexion sur la fin de vie. Selon l'agence de presse Asia News, une jeune enseignante chrétienne a été incarcérée pour blasphème en Égypte. Elle est âgée de 23 ans. Un groupe d'extrémistes musulmans a fait irruption dans l'école primaire de Louxor, où enseignent Demiana Imad, et forcé les élèves à témoigner contre elle. L'opinion publique a été alertée par l'association locale des parents d'élèves. Les cas d'arrestation pour insultes à l'islam se multiplient en Égypte depuis l'arrivée au pouvoir des frères musulmans, en particulier au sein de la minorité copte. Au mois d'octobre, en Haute-Égypte, deux enfants coptes analphabète âgé de 9 et 10 ans avait été arrêté pour profanation du Coran malgré les dénégations de leurs parents et de l'évêque du lieu. L'opposition politique fait également l'objet d'une sévère répression. L'invité de ce dimanche est marié et père de 4 enfants. Il s'agit de Gérard Tétard. Il a été pendant plusieurs années président de la communauté Nouvelle Fondation. Engagé à Diaconia 2013, il est délégué pour la France du comité d'orientation européen Ensemble pour l'Europe. Interrogé par Catherine Aubin, Gérard Tétard nous explique cette formule Ensemble pour l'Europe.
Ensemble pour l'Europe, c'est un rassemblement de 250 communautés en Europe qui désirent travailler pour donner une âme à l'Europe. Et puis, je travaille aussi dans d'autres rassemblements en France pour aider les responsables à être en communion les uns avec les autres et les communautés en communion les unes avec les autres. Ça, c'est une première direction de ma mission. Et la deuxième, c'est lié à mon charisme de gouvernant. J'ai appris à gouverner et donc je me mets au service de plusieurs communautés. Et là, je travaille pour les aider dans leur manière de gouverner. Donc soit par des formations, soit par un travail avec les équipes, comme un consultant peut le faire dans une entreprise. Mais ils apprécient dans le sens où j'apporte quelques méthodes de gouvernance, mais aussi j'essaie d'avoir un immense respect de leur charisme propre.
Alors, Ensemble pour l'Europe, de quoi s'agit-il ?
C'est né un peu à l'appel de Jean-Paul II en 1998. Sur la place Saint-Pierre, il avait rassemblé les communautés nouvelles et mouvements. Et il leur a demandé de travailler ensemble. Alors, les responsables, que ce soit Chiara Lubich, Andrea Riccardi et d'autres, se sont rassemblés et se sont dit, mais comment continuer ? Et comment vivre cette communion ? Et alors, ça s'est cherché au début. Et puis, il y a eu la signature en Allemagne de la déclaration d'Augsbourg qui traite de la justification. Et là, il y avait bien entendu de nombreux protestants allemands. Et ils se sont dit, mais peut-être nous avons à travailler ensemble. Et en rentrant vers un lieu de rassemblement, les responsables m'ont entendu une émission où le cardinal Cassidy, qui était alors le président du Conseil pour l'unité des chrétiens, qui dit « Nous avons fait notre travail, maintenant aux laïcs de faire le leur ». Et les responsables, entendant ça à la radio, ils se sont dit, juste en démarrant une rencontre de responsables, ils se sont dit « Mais il faut que nous prenions nos responsabilités ». Et alors, s'est décidé une communion, non seulement de mouvements catholiques, mais de mouvements catholiques et protestants, auxquels se sont adjoints progressivement des orthodoxes.
Et aujourd'hui, vous êtes 250.
250, ça ne s'est pas fait en un seul jour, mais rapidement, dès 1999, les mouvements se rassemblant se sont dit, mais cette communion, à quoi elle est ordonnée ? Une communion pour elle-même va tourner en rond et disparaître. Et ils se sont dit, mais et si c'était pour l'Europe ? Pour ce continent européen et en un sens pour la société européenne. Et c'est une manière pour les chrétiens, ces 250 communautés, de se situer à la jointure des enjeux de société. Et c'est comme ça que c'est devenu Ensemble pour l'Europe, mais on pourrait très bien décliner Ensemble pour l'Afrique ou Ensemble pour l'Amérique latine. Et donc, les enjeux que nous travaillons, les défis qui sont les nôtres, ce sont à la fois des défis d'unité, la devise de l'Europe, c'est l'unité dans la diversité. Eh bien, d'une certaine façon, quand nous sommes des chrétiens travaillant en Église, on parle souvent de l'unité dans la diversité. Donc il y a là quelque chose qui se met au service et qui aide les chrétiens de ces communautés à faire, comme dit Benoît XVI, à ne pas se retirer de l'histoire. Nous participons des enjeux de ce monde, de l'histoire d'un continent qui se construit, d'un processus européen qui a été initié par des chrétiens, que ce soit Gasperi, Adenauer ou Schumann, ce sont des chrétiens. Et d'ailleurs, Schumann disait « Je n'aurais pas fait cette Europe si je n'avais pas vécu cet élan chrétien. » Et donc, nous travaillons année après année sur ces enjeux et que nous exprimons en forme de « oui ».
C'est ça, il y a les sept « oui ».
Les sept « oui ». Le « oui » à la vie, notamment le début et la fin de vie, là où il y a des fragilités, des vulnérabilités. Le « oui » au couple et à la famille, Dieu sait si c'est un enjeu. La famille, on le voit dans mon pays, la France aujourd'hui. Oui à la création, donc le travail au niveau de l'écologie. Oui à une économie au service des besoins de l'individu et de toute l'humanité. Oui à la solidarité avec les pauvres et les défavorisés. Un enjeu fantastique. L'Europe est un continent riche, mais qui a quand même beaucoup de pauvres. Oui à la paix, et notamment dans la foulée de l'esprit d'assises qu'a initié aussi Jean-Paul II. Et oui à la responsabilité envers toute la société.
Et donc votre livre « Comment donner une âme à l'Europe » raconte ce que vous êtes en train de dire ?
Oui, le premier chapitre traite des racines chrétiennes de l'Europe. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été retenu dans la Constitution. Pourtant, c'est un fait historique que le christianisme a influencé le devenir de l'Europe. Il y a des saints patrons de l'Europe. Il y a, bien entendu, plus près de nous, la construction de la communauté européenne qui ont mis en commun le charbon et l'acier pour commencer, qui servaient à faire la guerre et qui ont été mis ensemble dans le but de construire la paix. Un peu pour paraphraser Isaïe, au lieu de faire des armes, eh bien on fait des socs de charrue avec l'acier. L'Europe est quoi ? C'est un processus conçu sur trois pieds. La réconciliation franco-allemande, quand même après Auschwitz, ce chaos. Là, comme disait Jean-Paul II, le Golgotha de l'humanité, on n'a pas été plus loin dans l'horreur. La réconciliation, le partage, et puis bien sûr, quelques règles institutionnelles qui parfois prennent trop d'ampleur et qu'on est parfois trop préoccupé de la courbure des concombres par rapport à des enjeux plus importants. Donc l'Europe peut apparaître comme technocratique, mais il faut bien aussi quelques règles. Et nous disons, l'Europe doit être économique. Bien entendu, l'Europe doit être politique, bien entendu, et encore davantage. Dieu sait si elle patine sur ces plans-là, mais l'Europe doit être aussi spirituelle. Et c'est en cela qu'Ensemble pour l'Europe intervient. Donner une âme à l'Europe, travailler les enjeux spirituels, notamment la fraternité, essayer de donner une parole prophétique, d'avoir un horizon et de donner un élan. Parce que je pense qu'une partie de la crise de l'Europe aujourd'hui est liée au fait qu'elle traverse une crise spirituelle. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous voulons travailler et donner une espérance nouvelle aux citoyens européens, donner une passion à l'Europe, notamment chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes.
Parce qu'on le voit, le danger devant les difficultés, c'est le repli sur soi.
D'abord, vivre son christianisme seul, c'est politiquement correct, mais ça n'est pas prophétique. Prophétisme, c'est de vivre en chrétien, en communauté, mais ces communautés, qu'elles puissent aussi vivre en communion les unes avec les autres. Qu'est-ce qui se passe derrière ça ? C'est qu'on voit bien quand on travaille avec les amis allemands, italiens, etc., qu'on traîne encore des tas de clichés les uns sur les autres. Donc il nous faut traverser tout cela. Et pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à travailler les uns avec les autres, il faut se connaître. Comment l'Europe peut-elle retrouver sa jeunesse, sa vitalité ?
Parce que les racines sont là, justement.
Les racines sont là, mais encore faut-il le vivre et redonner une vision prophétique, développer un langage d'horizon et redonner une espérance. Eh bien, nous devons travailler en lien avec tous ces enjeux et avec tous ces peuples et ces personnes qui croient à l'Europe, parce qu'aucun pays ne pourra s'en sortir seul. Les problèmes sont si graves qu'il faut vraiment retrouver l'espérance, mais la retrouver ensemble. C'est comme ça que l'Europe pourra retrouver sa force, son dynamisme, sa jeunesse et jouer le rôle qu'elle a à jouer dans le monde, parce que l'Europe reste la première puissance économique mondiale. Est-ce qu'elle en a conscience ? Est-ce qu'elle y croit ?
Gérard Tétart est aussi l'auteur de « La foi, un don à vivre » et de « Quelle âme pour l'Europe ?» de 150 communautés et mouvements chrétiens ensemble pour l'Europe aux éditions Nouvelle Cité. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet, sur Facebook, sur Twitter ainsi que sur nos applications. Bonne semaine à tous.